Bonjour à chacun. J'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Le passage que je nous propose de regarder ce matin se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18. C'est en fait un passage que j'avais déjà abordé, mais c'était en 2011. Je pense qu'on a tous oublié. Et surtout, il aborde un sujet qui me semble essentiel, primordial pour notre vie, un élément clé pour toute relation, toutes nos relations, avec Dieu premièrement, mais avec les autres aussi. Dans les relations, le monde préconise souvent un rapport de force, mais aussi, peut-être aussi, des vertus sont mises en avant pour que, entre guillemets, ça marche. L'amour, la communication, le partage, et ces vertus sont effectivement de bonnes choses pour nos relations. Mais la Bible propose et encourage aussi un autre ingrédient, le pardon. Le pardon, élément essentiel et primordial, mais parfois si difficile à mettre en œuvre et à vivre. J'ai encore personnellement pas mal de progrès à faire en la matière, besoin de l'aide de Dieu. Alors quelques encouragements à ce sujet me seront utiles et peut-être que pour vous aussi. Savez-vous pardonner ? Et encore pardonner. Et encore pardonner, si cela s'avère nécessaire. Et je vous invite à lire ce texte dans Matthieu 18. Les versets qui nous intéressent, c'est surtout versets 21 et 22, mais on va lire un passage beaucoup plus large pour avoir bien le contexte de ces versets. Donc on va lire depuis le verset 15. « Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute affaire se règle sur la parole de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un non-juif et un collecteur de taxes. Amen, je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Amen, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés pour mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Père va lui demander, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Jusqu'à sept fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à 70 fois sept fois. » C'est pourquoi il en va du règne des cieux comme d'un roi qui voulait faire rendre compte à ses esclaves. Quand il commença à le faire, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer son maître, son maître ordonna qu'on le vende, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin de payer sa dette. L'esclave tomba à ses pieds et se prosterna devant lui en disant, « Prends patience envers moi et je te paierai tout. » Ému, le maître de cet esclave le laissa aller et lui remit sa dette. En sortant, cet esclave trouva un de ses compagnons d'esclavage qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et se mit à le serrer à la gorge en disant « Paie ce que tu me dois !» Son compagnon tombé à ses pieds le suppliait « Prends patience envers moi et je te paierai. » Mais lui ne voulait pas. Il alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. En voyant ce qui arrivait, ses compagnons furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître le fit appeler et lui dit, « Mauvais esclave, je t'avais remis toute ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir compassion de ton compagnon comme j'ai eu compassion de toi ?» Et son maître en colère le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Nous connaissons certainement en grande partie ce passage, en tout cas certains versets. Mais quelle patience dans le pardon avons-nous ? Quelle patience devons-nous avoir en matière de pardon, et en particulier vis-à-vis de nos frères et de nos sœurs ? Et ce matin, je vous propose trois points particuliers par rapport au pardon. Vraiment le pardon, une vision de devoir, une vision comptable. Deuxième aspect, se demandant si Jésus n'est pas trop exigeant, ou si plutôt il y a une grâce à saisir. Et la troisième, le pardon, type d'illustration pour la guérison des blessures. Combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Notre lecture des commandements de Dieu, incluant les commandements exprimés par Jésus lui-même, est souvent sous le mode du devoir. Le texte original en grec comporte un verbe au futur, et ce sont bien là souvent nos traductions en français. Combien de fois pardonnerai-je ? Mais instinctivement, nous comprenons combien de fois devrais-je pardonner ? Et c'est d'ailleurs de cette façon que certaines Bibles, comme la Bible en français courant ou la Bible du Semeur, traduisent. Jusqu'à quel niveau va mon obligation en matière de pardon ? C'est toujours délicat d'essayer de deviner ce que pensent les autres quand ils disent quelque chose. Mais je crois que pour Pierre, c'est effectivement ce qu'il a en tête quand il exprime sa question. Pierre, il est sur le mode comptable, sur un mode du devoir. Oui, j'ai des obligations fraternelles en matière de pardon, bon, mais jusqu'où vont-elles ? Il doit bien y avoir une limite. Ah, Pierre, on parle souvent de lui ces derniers temps, mais... Facile de donner des mauvaises intentions aux autres, mais ne sommes-nous pas nous-mêmes souvent aussi facilement sur ce mode comptable ? Pas vous, mais enfin, en tout cas moi, des fois j'ai ce travers. Merci pour vos prières alors. Pour être franc, si on regarde aussi les paroles de Jésus dans ce passage, pas seulement les paroles de ce verset, mais aussi dans leur contexte, comme nous l'avons lu, le positionnement Jésus peut aussi peut-être nous paraître et nous laisser perplexes. Ne semble-t-il pas lui aussi sur un mode comptable ? Si nous regardons par exemple ce qu'il dit au verset 15 à 17, dans le cas du péché d'un frère contre soi, « Si un frère a péché contre toi, tu vas le voir, tu discutes avec lui, tu le reprends, c'est une première occasion de pardon. S'il n'y a pas de reconnaissance du tort et de demande de pardon, c'est ce que je comprends en sous-entendu dans ces versets, tu répètes la procédure avec une ou deux personnes avec toi, c'est une deuxième occasion de pardon. » Si là encore il n'y a pas de reconnaissance de tort et de demande de pardon, tu répètes la procédure avec l'Église comme témoin, c'est la troisième occasion de pardon. Et puis si là il n'y a pas de reconnaissance ou encore de demande de pardon, eh bien fin de l'histoire, tant pis pour lui, c'était la troisième et dernière occasion. Le pécheur a raté le coche et tu le traites comme si ce n'était pas un frère ou une sœur. Trois occasions de pardon seulement, c'est tout. Jésus n'est-il pas aussi sur un mode comptable ? J'ai effectivement lu dans la plupart des commentaires que, à l'époque, pour les rabbins, la limite pour pardonner, c'était trois fois. On peut peut-être à juste titre objecter que les cas sont différents dans ce passage. Dans les premiers versets, il semble parler de quelqu'un de non repentant, quelqu'un d'obstinément non repentant, alors que les versets où Pierre pose la question semblent tacitement concerner quelqu'un de repentant, mais quelqu'un retombant. Péchant à nouveau contre moi et retombant encore, repêchant encore contre moi, et retombant encore, etc., etc. Quelqu'un qui finit quand même à aller au bout de ma patience. C'est vrai, la différence est à noter, car c'est effectivement une différence majeure, mais on est quand même, semble-t-il, de prime abord en tout cas, dans une même logique de dire qu'il ne faudrait quand même pas abuser, et qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête, non ? Patience, pardon et tout ça, repentant ou pas, à un moment donné, trop, c'est trop. Alors stop, c'est stop, non ? Les rabbins, dans leur morale, se bornaient à trois fois, comme étant la limite pour pardonner, comme je l'ai dit. Alors Pierre, l'impétueux Pierre, là c'est impatient Pierre, fait preuve, je trouve là, déjà, d'une générosité extraordinaire. En étant prêt, semble-t-il, à aller jusqu'à pardonner 7 fois. C'est vrai, sans ironie, c'est déjà de sa part une preuve de belle générosité, de belle patience, prêt à pardonner jusqu'à 7 fois. Le chiffre 7, on le sait, est un chiffre particulier dans la Bible, voulant signifier la plénitude, la totalité, la perfection. Peut-être que ce chiffre avait aussi une valeur symbolique dans l'esprit de Pierre, on ne sait pas trop. Mais de toute évidence, Pierre pensait que le pardon, un peu une sorte d'acte automatique, on a été offensé, devait bien avoir une limite quand même. Combien de fois pardonnerai-je ? Jusqu'à 7 fois ? Quelle patience avons-nous dans le pardon ? Quelle patience devons-nous avoir vis-à-vis de nos frères et de nos sœurs ? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois. Quoi ? 490 fois ? Il est dur, Jésus, là, non ? Mais telle est bien sa réponse. Et si notre question à Dieu est sur un mode comptable, si notre compréhension des attentes de Dieu à notre égard est sur le mode du devoir, des choses obligatoires à accomplir, alors nous devons entendre la réponse de Jésus sur ce même mode du comptable et du devoir. Et nous concluons, à juste titre, que c'est impossible. Et nous repartons tout tristes. Et je vois là un parallèle fort entre ce passage et l'histoire du jeune homme riche qui vient aussi à Jésus lui demander ce qu'il doit faire pour hériter de la vie éternelle. C'est dans le chapitre suivant de l'évangile de Matthieu. « Fais ceci, ne fais pas cela », lui répond Jésus en énumérant la plupart des commandements du décalogue. « J'accomplis cela depuis déjà longtemps dans ma vie », lui répond l'homme. « Ah, si tu veux être parfait, vends tout ce que tu possèdes. » Raisonnement et question à Jésus sur un mode comptable, sur le mode du devoir méritoire à accomplir. Réponse de Jésus sur le même mode comptable du devoir. Et le jeune homme est reparti tout triste. Notre compréhension de Dieu, de son plan, de son salut, influence la façon dont nous comprenons, la façon dont nous interprétons les réponses de Dieu à nos questions. Notre compréhension de Dieu, de son plan, de son salut, influence la façon dont nous comprenons et la façon dont nous interprétons les réponses de Dieu à nos questions. Jusqu'à 7 fois ? Non, pas 7 fois, mais 7 fois 70 fois. Mais c'est mission impossible, c'est une exigence que nous ne pourrons jamais satisfaire. Et Jésus enfonce le clou, versets 34 et 35. Son maître en colère le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Effectivement, c'est non seulement mission impossible, mais en plus nous serons condamnés pour ne pas avoir réussi. Gloups. Bon, on va quand même essayer de faire notre mieux pour pardonner tant que fois de possible. Peut-être que Dieu trouvera nos efforts suffisants pour ne pas se mettre en colère contre nous. Est-ce que c'est vraiment comme cela qu'il faut comprendre ce passage ? Jésus peut-il vraiment nous commander de pardonner de tout cœur ? Franchement, j'ai peine à croire que l'on puisse vraiment faire quelque chose de tout cœur, par la contrainte, ou pire, par la peur de représailles. Faire tous les efforts possibles pour faire quelque chose de tout cœur, moi, ça me semble une totale contradiction et une impossibilité. Où serait alors la sincérité et l'amour que je perçois dans cette expression « de tout son cœur » ? Peut-être que j'ai rien compris alors. Ou peut-être que déjà convaincus de nos limites, nous nous sentons désemparés et impuissants. Ou nous nous disons peut-être qu'au contraire, il ne faut pas trop attacher d'importance aux mots. Et que comme Jésus sait très bien que nous ne pouvons pas y arriver, alors que ce n'est pas une vraie exigence de sa part. C'est juste une façon de parler pour nous dire de faire notre mieux. Ça m'étonnerait que ça soit cela aussi. Mais que dit vraiment Jésus à Pierre ? Que nous dit-il à nous aussi aujourd'hui ? Vous connaissez cet autre verset qui dit « On vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » C'est aussi dans l'évangile de Matthieu un peu plus tôt. Je crois que ce principe est quelque part aussi valable pour Dieu. Comprenez-moi, je pense que Dieu mesure de la façon dont il voudrait que nous mesurions, avec libéralité et intégrité. Dieu juge de la façon dont il voudrait que nous jugions, avec sagesse, discernement et droiture. En d'autres termes, Dieu met en œuvre pour lui-même les commandements et les instructions qu'il nous donne. Dieu me demande de faire 2000 avec ceux qui me demandent d'en faire un. Dieu en a fait aussi 2, avec moi-même 10, 20, 30, 100, alors que je pense en avoir besoin de lui que pour un. Dieu me demande d'aimer mon prochain comme moi-même. Il m'aime comme lui-même. Etc., etc. Ainsi, quand je lis un commandement, si j'ai bien conscience de cela, je ne me sens pas écrasé par la lourdeur de la tâche ou le poids du fardeau, parce que je sais que je suis au bénéfice de la même chose de la part de Dieu. Quand je lis un commandement, je ne suis pas écrasé par la lourdeur de la tâche ou le poids d'un fardeau, parce que je sais que je suis au bénéfice de la même chose de la part de Dieu. Et bien au-delà, bien sûr, car là où nous échouons, lui n'a pas de limite, lui n'échoue pas. Alors quand je lis que Dieu me demande de pardonner 70 fois cette fois, je me souviens d'abord que lui, Dieu, il me pardonne 70 fois cette fois, sans limite. Et c'est certainement ce que Jésus veut faire comprendre à ses disciples par la parabole qui suit et qui raconte immédiatement après sa réponse à Pierre. Si ce serviteur a été impitoyable envers son compagnon et ne lui a pas remis sa petite dette, c'est qu'il n'avait pas compris que sa dette à lui, une dette immense et absolument impossible à rembourser, sa dette à lui envers son Seigneur avait été totalement effacée. Il ne l'avait pas compris, il ne l'avait pas cru, il ne s'était pas approprié cette remise de dette. Il n'avait pas saisi la grâce, ni dans le sens de la comprendre, cette grâce, ni dans le sens de la prendre, de la recevoir, de se l'approprier. La grâce. Ce n'est qu'à la mesure de la compréhension du propre pardon dont j'ai, moi, été l'objet, et dont je suis encore, de la part de Dieu, que mon prochain, toujours à mal dire ou à mal faire celui-là, trouvera grâce à mes yeux. Ce n'est qu'à la mesure de la compréhension du propre pardon dont j'ai été l'objet et dont je suis encore l'objet que mon prochain trouvera grâce à mes yeux. Ainsi, avant d'être une exigence de Dieu, une obligation au pardon, ce passage est, je pense, une bonne nouvelle à saisir, si nous voulons bien l'entendre. La bonne nouvelle de la façon dont Dieu me pardonne et me pardonnera. Et ce passage nous rappelle en effet que le pardon est une grâce chrétienne qui fut tout d'abord pratiquée par Dieu lui-même. Dieu a effacé la dette que j'avais à son égard. La dette impossible à rembourser que j'avais n'existe plus. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait aussi écrire par ailleurs, dans l'Épître aux Éphésiens, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Comme Dieu nous a pardonné en Christ. C'est dans la droite ligne de ce que je crois que Jésus voulait faire comprendre à ses disciples. Comme Dieu nous a pardonné en Christ. Je ne sais pas si on arrive toujours bien à se représenter cela et à saisir toute la portée de ce pardon reçu. J'étais ennemi de Dieu, Dieu m'a pardonné. Je suis devenu son enfant. C'est la base et le point de départ, et cela couvre aussi le fait que, bien que nous soyons devenus ses enfants, nous avons encore, parfois, une certaine tendance, si peu, à encore pécher. Et Dieu pardonne encore et encore et encore. Combien de fois le pardonnera-t-il ? Jusqu'à 7 fois ? Non, pas 7 fois, mais 7 fois, 70 fois. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ce que Dieu nous commande, ce que Dieu nous ordonne, il le met d'abord en œuvre lui-même. Pour lui, c'est par nature, c'est dans son être même. pour nous, c'est par nouvelle nature, par transformation et sanctification progressive, par l'œuvre de l'Esprit en nous, si nous voulons bien le laisser agir, pour nous transformer dans nos vies. Sur un mode comptable, nous subirons le poids d'une obligation de perfection qui ne sera jamais atteignable et qui sera trop lourd pour nous à porter. Il faut que je pardonne. C'est sûr, on n'y arrivera pas souvent, pas à chaque fois, pas sans limite. Notre force, notre volonté, notre blessure peut-être aussi, ne nous le permettrait pas. Par contre, sur un mode de la grâce transformatrice reçue en Jésus-Christ, Dieu nous rendra capables, petit à petit, nous fera grandir petit à petit, jusqu'à la stature parfaite de Christ, afin de pouvoir pardonner. Et c'est bel et bien son programme pour chacun et chacune d'entre nous, si nous le voulons bien. Lui seul peut changer nos cœurs, et il le veut. Et nous ? Quelle patience dans le pardon demandons-nous à Dieu vis-à-vis de nos frères et de nos sœurs ? Pardonner, fardeau ou privilège ? Le pardon est un sujet évidemment très vaste, mais je voudrais encore effleurer un aspect qui me semble important, celui de la guérison. Sur la base de ce que nous venons de voir, une façon de comprendre cet échange entre Pierre et Jésus est, à mon humble avis, de le lire. Combien de fois devrais-je pardonner à mon frère ? Question de Pierre. Réponse de Jésus : tu pourras pardonner jusqu'à 70 fois cette fois. Être capable de pardonner. En demandant de nous un pardon sans cesse renouvelé, Jésus nous dit en substance qu'il nous en donne la capacité, qu'il nous en donnera la capacité, si nous sommes conscients de la grâce que nous avons reçue de lui. En demandant de nous un pardon sans cesse renouvelé, Jésus nous dit qu'il nous donnera la capacité de pardonner si nous sommes conscients de la grâce que nous avons déjà reçue en lui. En filigrane de ce mot d'ordre, j'entrevois aussi une promesse de guérison. En effet, lorsque je pardonnerai, je me libérerai du mal qui m'a été infligé. Généralement, on peut penser que seul l'offenseur a besoin de pardon. Mais souvent, l'offensé en a aussi besoin pour guérir sa blessure ou apaiser sa colère. Tant que je ne pardonne pas, je ressasse ma blessure comme une plaie que l'on raviverait sans cesse, sans jamais la laisser sécher, cicatriser, guérir. Et au-delà d'un pardon qui nous est ordonné, le pardon nous est aussi donné comme un moyen de guérison. En pardonnant avec sincérité, mais sans naïveté, parce qu'il ne s'agit surtout pas de faire comme si de rien n'était, ni d'hypocrisie, quand on a mal, on peut, on doit le dire, alors Dieu pansera nos plaies, il nous guérira. Chose impossible par nos propres forces ou notre propre volonté, Dieu le rend possible. Ce pardon qui nous guérit nous amène aussi à un autre constat, c'est que nous ne pouvons pardonner que les blessures que nous avons subies. Quand mon frère aura péché contre moi, dit Pierre. Notre pardon ne se confond pas avec celui de Dieu. Il ne nous appartient pas de pardonner tous les péchés du monde. C'est bien, par contre, les blessures qui m'ont été faites personnellement que je peux pardonner. Certes, cela n'empêche pas de la compassion et le fait de souffrir de la souffrance d'un autre, mais en aucun cas je ne peux pardonner à la place de la victime. C'est important de le rappeler, c'est aux victimes que revient le droit de pardonner pour être elles-mêmes libérées du mal qu'elles ont subi. Mais ne leur présentons pas non plus ce pardon comme une exigence qui les culpabiliserait. Le pardon, notre pardon, est un acte de libération et de guérison, la conséquence de la grâce dans le Seigneur, une grâce du Seigneur. Tout à l'heure, j'ai dit que l'on supposait une démarche repentante de celui qui aurait offensé Pierre, mais à vrai dire, on ne sait pas si tel est le cas. Le texte ne le dit pas. Et quoi qu'il en soit, notons que le pardon n'implique pas nécessairement le repentir de l'autre. C'est peut-être l'aspect le plus difficile à admettre. Souvent, le repentir de l'autre peut ne pas être là. Il peut ne pas y avoir de demande de pardon de sa part. En général, on peut être prêt à pardonner, mais encore faut-il que le frère ou la sœur reconnaisse sa faute ou son erreur, fasse profil bas, soit contrit à minima. Eh bien non, pas nécessairement. Pour notre part, notre pardon ne doit pas y être conditionné. Jésus nous demande de pardonner même dans ces cas-là aussi. La plus célèbre phrase de pardon chrétien n'est-elle pas « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Pourtant, pas de repentir à ce moment-là parmi ceux qui crucifient Jésus. En pardonnant à celui qui ne se repent pas, je montre mon absolue liberté vis-à-vis de lui. Et c'est quelque part normal, puisque le pardon est ici une question de guérison, ma guérison. Heureusement que je peux pardonner à celle ou celui qui m'a fait du mal, sans qu'il y ait nécessairement de la part de l'autre une repentance, sans attendre son éventuelle repentance, si elle ne vient jamais. Dois-je rester avec ma blessure ? Bien sûr que non. Une dame, semaine dernière, à l'église de Genève, me disait à la fin du culte, « Ah bah, j'en ai pris plein la figure avec votre message. » Ce sont ses propres mots. Hein. Elle était malheureusement coincée dans une situation non pardonnée, mais avec quelqu'un qui est décédé désormais. Par la grâce en Christ, je peux pardonner à celui ou celle qui m'a fait du mal, quand bien même il n'y aurait jamais plus de repentance de l'autre. Je peux aussi me pardonner par la grâce de Christ si je ne peux plus moi-même me repentir vis-à-vis de l'autre. Cette liberté, cette guérison, c'est les cadeaux que Dieu, que Christ nous fait en nous donnant la force de pardonner. Non seulement 7 fois, mais 70 fois 7 fois, systématiquement. Ma guérison passe par mon pardon. La repentance, ça c'est le problème du frère ou de la sœur pour sa guérison, sa relation avec Dieu, sa relation avec les autres. L'optimum, bien sûr, c'est qu'il y ait un bout de chemin parcouru de part et d'autre. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas un absolu, ni un préalable. Patience, patience. Si nous avons réellement pardonné, prions aussi pour la repentance de l'autre, pour qu'ainsi tout nuage disparaisse de la relation et que la communion soit sans entrave. Soyons pénétrés du caractère de grâce de notre Père. Cherchons en premier lieu le bien du coupable, n'ayons aucun désir de lui faire subir un châtiment et n'agissons pas en vue de nous faire nous-mêmes justice. C'est Dieu qui justifie. De cette manière, la grâce pourra toucher les cœurs. Et bien sûr, n'oublions pas combien de fois c'est nous-mêmes qui sommes le ou la coupable pardonné. Et pour conclure, l'Église est-elle le lieu du pardon ? J'espère. L'Église, en tout cas, devrait être le lieu du pardon. Pas par obligation, mais bien par transmission de la grâce. Pourrait-il en être autrement si nous avons tous, chacun, chacune, été au bénéfice du pardon de Dieu et si nous l'avons bien compris ? Pas facile. Pas si automatique que nous le voudrions parfois ou que cela devrait, mais Dieu est bon et patient et nous pardonne. Nous pouvons nous pardonner les uns les autres parce que nous nous aimons les uns les autres. Simplement parce que nous avons reçu le commandement de la part de Jésus ? Non, mais parce que l'amour de Dieu est déversé en nous par le Saint-Esprit et nous en avons bien besoin qu'il continue. Que des fleuves d'eau vive nous alimentent, nous remplissent et débordent largement, pas seulement pour le témoignage ou pour une vie épanouie comme on prend souvent ce verset, mais aussi pour partager ce pardon et le vivre. Évidemment, comme je le rajoute toujours, hein, ne péchons pas, bien sûr, exprès pour avoir le plaisir d'être pardonné. Vous n'auriez pas tout compris à ce que je voulais transmettre dans ces cas-là. En tout cas, l'Église sera pleinement ce corps que Christ veut qu'elle soit pour être toujours davantage une Église qui donne envie. Envie à ceux qui sont d'y rester, d'y venir, d'être assidus, d'être engagés, de guérir. Envie à ceux du dehors de s'y adjoindre, de profiter également de la communion fraternelle, du pardon, de l'amour exceptionnel qui y est vécu, dans cette liberté chrétienne que nous avons en Christ. Recevez ces paroles dans la liberté que Dieu nous donne, comme je les partage avec vous dans cette liberté. Évidemment, nul désir en moi d'être moralisateur ou accusateur ou de pointer un problème qu'il n'y a pas, mais je veux simplement encourager, enfin j'espère. Et si je ne l'ai pas bien fait, soyez patients et pardonnez-moi. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, nous pardonnant réciproquement, comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Amen. Et je vous invite à un temps de réflexion personnelle, avant que je ne prie. Seigneur, merci. Merci pour ton pardon sans cesse renouvelé. Merci pour ta patience. Pardon à mes frères et sœurs aussi pour mes maladresses, pour mes erreurs et pour mes péchés. Aide-moi également à être patient avec eux, à pardonner les leurs. Et guéris mes blessures, Seigneur. Guéris leurs blessures. Toi seul peux m'y aider, toi seul peux nous y aider. Donne-nous vraiment une communion sincère par ton esprit, sans tâche, sans rancune aucune. Donne-nous de vivre pleinement ton amour, pour que nous puissions briller toujours de ta présence et que ta présence brille alentour. Nous avons toujours besoin de mieux comprendre ta grâce que tu nous as donnée en Jésus-Christ à la croix. Mieux la vivre, la saisir, pour pouvoir la partager. Merci Seigneur pour ce magnifique programme, pour cette magnifique capacité que tu veux nous donner de pouvoir pardonner 70 fois cette fois. Tant de choses que nous voyons de ta part comme des devoirs, comme des commandements, comme des obligations. Aide-nous à les voir comme un beau projet de vie que tu as pour nous. Merci pour ta transformation que tu fais en nous. Merci encore pour tout ce que tu vas nous apprendre, nous faire comprendre, et merci de nous faire grandir dans ta grâce, pour ta gloire, en Jésus-Christ. Amen.
Je pourrais dire quelque chose.
Oui.
Merci pour ton message. En fait, je viens de perdre ma grand-mère. Ça me touche beaucoup parce que, comme c'est la venue de voir à Genève, c'était une dame, ma grand-mère, qui nous a fait beaucoup souffrir, en particulier mon père, et je pense qu'on a beaucoup de choses à pardonner. J'ai sans doute pas fait avant, j'ai accumulé beaucoup de ressentiments. Ça me touche et voilà, je voulais juste témoigner et dire que vous pouvez prier pour ça.